Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Pour cette édition de Résonance, nous avons le plaisir de recevoir Mehdi Zaiba. Mehdi, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Mehdi, vous êtes artiste, auteur, chanteur, compositeur, musicien, guitariste,
ça fait une liste.
Auteur de plusieurs albums, trois précisément, Capitale du désert, Comédie, et le dernier album qui vient de sortir, là, il y a quelques jours, qui s'intitule L'Odyssée.
Exact.
L'Odyssée,
qui est bien enseigné.
Que l'on peut retrouver, notamment sur Internet, sur les plateformes de diffusion, c'est ça ?
Essentiellement, ouais.
Donc, un album qui est sorti à mi-mars, la 17 mars, au label Champ Mise Sound. Dans votre musique, on va, en la définissant en quelques mots, mais il faut l'écouter, eh bien, on peut dire que c'est de la chanson, du rock, du pop et de la pop, pardon. On peut retrouver aussi des influences réunionnaises. Voilà. Comment vous définiriez justement?
Un petit peu tout ça, oui. Voilà, c'est ça. Au gré de mes envies, de ce qui infuse, de ce qui remonte aussi. De plus en plus, c'est vrai que les rythmes de la Réunion ont peut-être tendance en ce moment à prendre plus de place dans ma manière de composer, d'écrire, même si après je les change un peu, mais ils ont eu le temps d'infuser, alors que je viens quand même plutôt du rock, du rock français.
Avec aussi des textes qui prennent une part très importante aussi, oui. L'écriture des textes, des chansons très élaborées.
Merci, c'est ce qui me prend le plus de temps, hein, écrire un texte, ouais.
On va parler de cet album L'Odyssée, mais vous venez de nous présenter aujourd'hui aussi ce titre intitulé George, Rumble in the Jungle, oui. Dédié au grand champion de boxe George Foreman, décédé il y a quelques jours, le 21 mars précisément.
Ouais, vendredi dernier, oui.
Une chanson donc qui lui est dédiée à ce champion de l'histoire de la boxe, connu notamment pour son combat à Kinshasa le 30 octobre 1974 face à Mohamed Ali devant 100 000 personnes.
C'est ça.
C'est l'occasion justement à travers ce morceau que vous lui avez consacré et bien de parler de cette histoire et pourquoi avoir choisi notamment George Foreman. Vous allez nous expliquer ce qui vous a amené à faire cette chanson, à lui dédier cette chanson qui était, me semble-t-il, aussi à l'occasion des 50 ans de ce combat. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est une chanson que j'ai commencé à écrire il y a maintenant peut-être bien 3 ou 4 ans, que je produisais déjà sur scène cette chanson. Et puis finalement, l'idée de la poser sur un disque et de lui donner quelque chose de plus conséquent et de lui faire aussi une animation graphique. Et ça a été pour les 50 ans du combat, qui était en octobre de l'année dernière et qui sont aussi mes 50 ans à moi. Pas en octobre, mais en juillet. Ouais.
Donc c'était un cadeau que vous lui faisiez et que vous faites aussi au public au passage.
Ouais, je crois aussi d'abord qu'un cadeau que je me suis fait, puis à lui, je ne sais pas s'il l'a entendu, j'ai essayé de lui faire parvenir, on verra.
C'est l'histoire donc d'un combat qui fête ses 50 ans, d'une résilience d'un homme brisé, d'un champion entré au panthéon de la boxe et qui... qui confesse à la mort de Mohamed Ali, une partie de moi s'en est allée, la plus grande partie. Oui. C'est la présentation que vous faites, notamment de ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser à l'histoire de George et jusqu'à en faire cette chanson ?
Eh bien, tout commence dans un studio à Rennes, à Verne-sur-Sèche. J'ai un ami qui me parle de... Je suis un peu amateur de boxe, et puis on vient parler de la boxe, et évidemment de Mohamed Ali, et puis évidemment de ce combat à Kinshasa en 74. Et lui, il m'interpelle, il me dit « Mais est-ce que tu connais vraiment l'histoire de George Foreman ?» Moi, je le connaissais juste comme le perdant de ce combat. Voilà. Et je lui dis « Non, je ne le connais pas. » Et ça m'a donné envie, finalement, on en parle ce soir-là. Et là, je découvre cette histoire folle, cette histoire d'injustice, cette histoire qui a mené cet homme-là à la dépression et à la de mon sens, à une destruction vraiment quasi totale, jusqu'à une renaissance à 46 ans, où justement, il arrive à exorciser un peu tout ce qui vient de lui arriver.
Alors, dans cette histoire, donc, George Foreman connaît notamment à travers ce combat avec
cette défaite
avec Mohamed Ali, donc le 30 octobre 1974 à Kinshasa. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors on l'a vu à travers des images, des documentaires, des films notamment, où finalement il est amené dans ce spectacle qui, ce n'est pas qu'un combat de boxe, c'est aussi tout un entertainment, un spectacle, et où il est amené finalement à jouer le mauvais rôle.
C'est très bien résumé, Mathieu. Il va être amené à jouer le mauvais rôle, le bouc émissaire, et probablement à son insu. En fait, j'ai pas relu mes notes avant de venir, mais je vais essayer de me remémorer ce qui me touche. En 1974, et Mohamed Ali, quelques années plus tôt, pour avoir refusé de s'engager au Vietnam en disant, je cite, c'est une guerre de blancs. En fait, il va être destitué de son titre de champion du monde. Il va être interdit de combat sur le sol américain. On va lui ôter sa ceinture. Et il va échapper de justesse à une peine de prison. Donc quand il revient à la boxe, Mohamed Ali, il a perdu son titre de champion du monde, évidemment. Il va tout faire pour le reconquérir. Et puis en face de lui, finalement, on a ce jeune boxeur, George Foreman, 22 ans, qui lui n'affiche pas les mêmes critères. C'est-à-dire qu'il remercie l'Amérique de l'avoir emmené là où il était, que sans l'Amérique, finalement, et les vétérans de guerre, il ne serait jamais devenu ce qu'il était. Et quand ce combat va être organisé, alors ce combat il va être organisé par Don King, ce promoteur de boxe, qui veut ramener un petit peu sur les devants, sur les feux de la rampe, ce Mohamed Ali adulé de tout le monde, mais qui n'a pas réussi à reconquérir son titre de champion du monde, qui a 32 ans, il me semble. Et il lui faut quelque chose de grandiose. Alors au début, il pense à... je crois qu'ils essayent de faire ça en Angleterre, mais ça ne se fera pas. Et finalement, ce sera... ça va se faire au Congo, enfin au Congo belge, au Zaïre. Voilà. Et c'est Mobutu, le dictateur de l'époque, qui lui va accueillir ce premier championnat du monde de boxe, ce premier championnat du monde sur le sol africain, voilà, entre donc un Mohamed Ali qui veut récupérer son titre de champion du monde et puis ce George Foreman qui vient de terrasser les deux adversaires qui ont battu Ali juste précédemment.
Voilà. Alors, il y a donc la rencontre du sport,
et de la politique,
du spectacle et de la politique.
Et de la politique.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement quels sont, ce que représente Mohamed Ali à l'époque et du coup ce qu'est amené à jouer justement George Foreman dans cette théâtralisation, on va dire, cet entertainment, ce spectacle qui est aussi... qui a aussi une dimension politique.
Oui. Bah déjà, au niveau de la dimension, on va dire sociale, c'est le premier championnat du monde organisé sur le sol africain. Donc ça, il faut remettre ça dans le contexte. On est en 74, c'est peu de temps après la fin de la ségrégation noire aux États-Unis, et on est sur la fin du conflit au Vietnam. Donc les Américains, ils ont un fort pouvoir en fait de dominateur, quoi. Et très rapidement, Mohamed Ali, lui, il va se montrer comme le, pour ce combat-là, comme le symbole des opprimés du monde, des noirs, des délaissés, des autres peuples. Et ils vont accabler George Foreman en fait d'être lui le toutou à la solde de l'impérialisme blanc pour faire monter. En plus, Mohamed Ali, il était vraiment connu pour son chambrage, pour invectiver ses adversaires. Et là, ça va prendre une dimension extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment pour le contexte, on va dire, politique de l'époque, où vraiment, on est aussi... Mohamed Ali, il a des liens très forts avec les Black Panthers. Et parallèlement, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au JO de Mexico, en fait, comme George Foreman, lui, il a décroché la médaille d'or, il brandit donc le drapeau américain, tandis qu'on a les deux coureurs noirs américains, je me souviens plus, c'est Powell, et voilà, qui eux, en fait, manifestent leur anti-américanisme en levant le poing fermé, symbole des Black Panthers. Donc déjà, en fait, il y a quelque chose qui dépasse le sport à ce moment-là.
Et pour le coup, George Foreman est lui-même un peu dépassé.
Il est dépassé, ouais, il est dépassé. Il le racontera, en fait, il est dépassé par ce qu'il est en train, de vivre. En tout cas, il y a suffisamment, peut-être, d'interviews de lui où on sent qu'il trouve ça injuste, finalement, d'être à ce point-là détesté. En fait, de défendre une cause, d'être au milieu d'un tel ramdam. Puis après, pour la dimension purement, on va dire, financière et sportive, il faut voir que Mobutu, le dictateur, il promet 5 millions de dollars à chacun des participants. C'est une somme folle pour l'époque. Mmh. Il va accueillir les deux champions à l'aéroport avec, avec des lions. Donc, te dire, ouais, ouais. Et très rapidement, pendant tout le temps où il s'entraîne à Kinshasa et puis le long du fleuve, en fait, Mohamed Ali devient le chouchou de la foule de Kinshasa. Voilà. Mmh. Voilà.
Et donc, de l'autre côté, George Foreman est amené à jouer le mauvais rôle.
Le rôle du mec détesté, ouais.
Détesté d'une manière assez injuste, finalement, ouais, dans cette histoire.
Oui, c'est ce qui m'a touché. Et puis, comment un homme peut monter à ce point-là mettre les gants, la boxe, pour en avoir pratiqué un tout petit peu en amateur, c'est un sport qui est très difficile. Mmh. Et il faut que tu t'imagines qu'est-ce que ça représente, un tout petit ring de 6 mètres par 6 mètres, entouré de 100 000 personnes. Il faut penser au contexte. Et donc, George Foreman, quand il monte sur le ring ce soir-là, en octobre, il monte seul contre tous, en fait. Mmh. Il a très très peu d'alliés, on va dire, avec lui. Mais par contre, tous les pronostiqueurs le donnent comme vainqueur. Ils disent qu'il ne pourra pas, que Mohamed Ali, enfin, il est trop vieux, voilà, et que Foreman va en faire qu'une bouchée. Foreman, il était réputé pour finir tous ses combats en 4 rounds. Donc Foreman, quand il monte sur le ring ce soir-là, il est touché, mais il est sûr de gagner.
Mmh. Et ce n'est pas ce qui va se passer, pour le coup.
Non, ce n'est pas ce qui va se passer, parce que, ben, contre toute attente, en fait, le combat dure plus longtemps que prévu. Voilà. On pensait que Mohamed Ali, il allait comme à son habitude, danser comme un papillon et puis piquer comme une abeille, mais pas du tout. Il est coincé dans les cordes et puis il encaisse voilà, un déluge de coups pendant 4, 5, 6 rounds. Mais il ne tombe pas. Et là, ce qu'on apprendra plus tard, c'est que Mohamed Ali s'est entraîné en secret, a changé de tactique, a encaissé des coups. Mmh. Et lui, son but, c'était de faire croire à George Foreman que finalement, s'il encaissait des coups, c'était qu'il était pris à son propre piège. Et non. Et il lui dit pendant tout le match, hein, d'après... c'est tout ce que t'as, petit, c'est tout ce que t'as. En fait, il l'arrangue, il le chambre dans l'oreille, ouais. Et puis jusqu'à ce sixième round où Foreman lui répond, c'est tout ce que j'ai, ouais.
D'accord.
C'est tout ce que j'ai.
Eh bien, on va écouter ce morceau que vous proposez, qui s'intitule George. Tout de suite, vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9.
Au souffle et à la corde, tu sauras ce qu'il en coûte de tenter la route jusqu'à Kinshasa. Tu cognes, George, tu cognes contre des plaques de verre. Tu cognes, George, tu cognes contre la foule entière. Simple d'esprit. Tu cognes, George, tu cognes contre des plaques de verre. Tu cognes, George, tu cognes contre la foule entière. Tu râles, suffoques l'issue redoute, le choc fatal, le knock-out, comme un animal dans la nage. Maillé, Ali crie la masse. La fille brûlée, la Cochinchine, en noir et blanc sur la photo. Les Viet Cong et le King, le Gong et le Ring, les dollars de CCCCO. Tu cognes, Georges, tu cognes dans la bronca d'Engoma du Congo. Tu cognes pour l'or maudit de Mexico. Tu cognes entre les aigles et les panthères. Tu cognes contre la foule entière. Au souffle et à la corde, il t'en faudra bien du courage pour paraffer ton nom en bas de cette page. Au panthéon pour les âges et les âges. Mais d'abord, la douleur. Mais d'abord, il faudra Kinshasa. Cogne Georges, cogne. Cogne Georges. Cogne.
Toujours à l'écoute de Résonance sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com en compagnie de Mehdi Zaïba, dont on a écouté un morceau intitulé Georges. Ce morceau, Georges, dédié au grand champion de boxe George Foreman. À l'instant, on écoutait la toute fin. Vous parliez des commentaires sportifs qu'on peut entendre à la toute fin de ce morceau.
Oui, absolument.
Qui sont les commentaires de ce fameux combat avec Mohamed Ali.
Le décompte, c'est le décompte à la fin du knockout, quoi.
Mm-hmm. Donc on parlait précédemment, avant de l'écouter, ce morceau, justement de ce combat qui a eu vraiment une répercussion dans la vie de George Foreman, et c'est aussi cela qui vous intéressait, qui vous intéresse à travers ce destin. C'est aussi une descente aux enfers et une résilience, c'est bien
oui,
ça.
Oui, c'est tout à fait ça, parce que bon, on va dire que dans le morceau, ce que j'ai voulu témoigner pour vraiment le parcours de cet homme-là, c'est il y a l'avant Kinshasa, il y a le pendant, mais il y a surtout l'après, en fait. Et quand Foreman il perd, le lendemain, tout de suite, il accuse les juges d'avoir fait détendre les cordes du ring, il accuse les organisateurs d'avoir mis quelque chose dans son verre. C'est surtout qu'il n'y croit pas d'avoir perdu. Mmh. J'imagine même pas ce que ça peut faire de perdre alors qu'on est à ce point-là détesté. Il va combattre encore pendant un ou deux ans, quelques combats, et puis il raccroche les gants, il arrête complètement. Mmh. En fait. Il arrête complètement, il dit faire des cauchemars du combat, en fait. Il dit que Mohamed Ali a brisé sa vie, et il arrête.
Totalement, pendant 10 ans.
Ouais, c'est ça, ouais, une dizaine d'années, voilà, un peu plus même. Il devient pasteur.
D'accord.
Il va devenir pasteur, il va dépenser toute sa fortune pour aider les gamins et construire une église.
Mmh.
Et
il va revenir...
D'ailleurs, il devient pasteur parce que je crois que lors de son dernier combat, cette défaite-là, une défaite de trop, il dit avoir une vision de Jésus.
Mmh.
Et donc, il devient pasteur.
Donc, il change complètement de vie.
Il change complètement de vie.
Pour se reconstruire.
Il a la tête rasée. Puis, mais toujours ce truc de faire des cauchemars du combat. Mais il racontera quand même que Jésus l'a sauvé.
D'accord.
Voilà.
Et puis, il va avoir une seconde carrière parce que George Foreman va revenir dans la boxe. Ce sera même le plus vieux champion du monde à 46 ans.
C'est ça. Et je crois que c'est aussi celui qui a totalisé le plus de KO. Enfin, il a un parcours de dingue.
Et qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu à la boxe après cette... de rupture presque affective et physique avec la boxe?
Moi, de mon point de vue, c'est que même il le confesse, en fait. C'est, retrouver son titre de champion du monde. Et puis peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça, mais laver son honneur, laver son image. En tout cas, quand il se remet à boxer, il va commencer à boxer comme ça à travers toute l'Amérique. Et il devient Big George, en fait, le gars sympa. Lui qui était réputé méchant et mauvais, il va se mettre à remonter dans l'estime des Américains. Et vraiment, chacune de ses apparitions, ça devient le gars chouette. Alors, il a même été entrepreneur, il a fait des barbecues Foreman. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui le pousse à remonter sur le ring à 40 ans, tu vois? Qu'est-ce qui le pousse? Mais il le dit, puis je pense qu'il est parti maintenant avec la seule réponse, mais c'est balayer Kinshasa, en fait.
D'accord.
C'est, pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, il a du mal à ce qu'on lui oppose un champion, puis ce sera chose faite à Las Vegas. Il a 46 ans. Et là, il retrouve son titre de champion du monde. Et à la fin du combat, là, il tombe à genoux dans un coin du ring. Il se met en prière comme ça. Il lève les yeux au ciel. Et tu comprends, en fait, qu'à ce moment-là, le chemin, il est fini pour lui, tu vois. C'est ça. C'est ça qui est beau. Mais cette force dans la résilience, c'est vraiment la résilience. Là.
Et dans la résilience aussi avec Mohamed Ali, dans la mesure où ils vont devenir amis.
Oui, ils vont devenir amis, ouais. Même s'il dira que Mohamed Ali a détruit sa vie, ils vont devenir amis, oui. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, mais ils vont devenir amis en tout cas.
Une belle histoire que vous abordez donc à travers ce titre, George Rumble in the Jungle.
Ouais.
C'est aussi, on peut dire, cette notion de résilience. C'est quelque chose qui traverse vos morceaux. C'est une thématique.
Résilience et la liberté, la privation de liberté. C'est vraiment une thématique. Alors vraiment, ici, c'est moi, cette résilience, je la trouve très forte. Alors c'est un terme que j'avais un petit peu du mal à comprendre avant. Et puis, peut-être qu'avec l'âge, je la comprends un peu mieux. Comment se reconstruire quand tout a été brisé? Comment se réinventer? Comment accepter, changer son regard sur les choses aussi? Donc la résilience, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est entre de la douceur, de la tendresse... Il y a plein de choses là-dedans, et puis une force, une conviction. Ouais.
C'est aussi le thème de l'album, L'Odyssée, que vous sortez en ce mois de mars. Est-ce que vous pourriez nous... Voilà, alors c'est un des thèmes, puisqu'il y a aussi, à travers l'Odyssée, j'imagine, le voyage, le mouvement, l'élan, les épreuves aussi,
exactement,
que l'on traverse.
C'est tout ça, ouais.
Est-ce que vous pourriez juste nous parler de la formation de cet album, de la genèse, quels ont été les thèmes et les différents morceaux que vous avez abordés?
Ah bah écoute, je vais prendre déjà mon petit carnet. Alors déjà, c'est un album qu'on a commencé à écrire pendant le confinement. Donc forcément, il a les maquettes, les titres qui en sont sortis avaient une saveur particulière. On a tous vécu ça d'une différente manière. Ouais, ben il y a eu beaucoup de choses que j'ai travaillé avec Tom Frogner. Au niveau, moi je suis arrivé avec donc les mélodies principales, et puis au niveau des arrangements, on a collaboré ensemble. Et finalement, c'était des ébauches de textes que j'ai dû finaliser. Et puis les morceaux sont faits comme ça. Il y a des morceaux qui étaient complètement guitare-voix, comme Un fil, qui sont devenus ce qu'ils sont. Voilà, Un fil. Alors bon, ben, c'est le morceau, je crois, je ne sais pas si c'est le morceau qui ouvre l'album, mais oui, il me semble, voilà. Alors Un fil, ben, je ne sais pas si on va parler de tous les morceaux un par un, mais c'est au niveau de la couleur, on va dire, de l'album, il y a beaucoup d'arrangements électro, de sampling, de loop. Voilà comment ça s'est fait. Avec un morceau un peu différent au milieu, c'est Silence on the Radio, voilà, qui est un souvenir de voyage à Saint-Domingue.
D'accord.
Voilà.
On va écouter Un fil, justement, et on revient dans Résonance tout de suite. Un fil de Mehdi Zaïba sur les ondes d'Univers 99.9.
Désaxé de l'axe, décentré du milieu, parfaite pour les vertiges, pas faite pour l'équilibre, partante pour la voltige, quand tout peut lâcher, elle peut lâcher prise. Elle ne tient qu'un fil. Elle ne tient qu'un fil. Ariane. Quand son corps lui pèse comme un âne mort. Elle le noie pour qu'il se taise dans l'eau de vie, à l'écart dans les angles morts. Pas de tribune, pas de ghetto, liberté promise à la une. Des accès de l'axe, décentré du milieu. Tout ne tient qu'un fil. Tout ne tient qu'un fil. Tout ne tient qu'un fil. Ariane. Quel temps fait-il dans ta mémoire? Il fait froid ou il fait chaud? Dans l'imparfait de nos voltiges, dans l'eau de parfum des vertiges. Parallèle à l'axe, les solitudes hackées dans un futur de ville en brun pour avaler de la colline, encore de la colline. Tout près de la rupture du fil, tout ne tient qu'un fil. Ne tient qu'un film, Ariane. Tout ne tient qu'un film, Ariane. Tout ne tient qu'un film.
Toujours à l'écoute de Résonance sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Vous venez d'écouter un fil extrait de l'album L'Odyssée de Mehdi Zaïba. Quelles sont les dates que l'on pourra retrouver où l'on pourra vous retrouver?
Ah, je ferai le Printemps des Arts à Bazouges, mais il me semble que ce sera fin mai.
Mm-hmm.
Voilà, pour l'instant. Et puis. Bon, je serai du côté d'Angers fin août, le 29 août, si mes souvenirs sont bons.
Le 29 août, eh bien voilà, avis aux auditeurs, donc notamment à Bazouges, La Pérouse, mais du côté d'Angers. Et par ailleurs, retrouvez aussi cet album donc sur les plateformes musicales.
Je regarde sur Internet. En même temps.
avec qui a-t-il été produit? Est-ce que vous pourriez nous parler de l'équipe?
Alors, je fais tout à la maison. Hein, donc, essentiellement musicalement, j'ai travaillé avec Thomas Frogner sur ce coup-là. Ce sont les deux seuls intrants. On va dire, c'est lui et moi. On a tout fait, enregistré, mixé certains titres aussi. Et puis après, le mastering, lui, ça a été Sébastien Laureau qui s'est occupé du mastering et Chab aussi, qui a masterisé pas mal de titres.
Merci, Mehdi, d'être venu nous présenter donc ce morceau, George Foreman, à l'occasion, on va dire, en hommage à ce grand boxeur et à l'occasion notamment de son décès le 21 mars 2025, il y a quelques jours, et par ailleurs aussi nous avoir parlé de cette résilience de cet homme, cette odyssée qu'il a traversée lui-même durant...
Et si on peut finir sur Sans Escale, voilà, c'est le dernier morceau qui fait partie de... Parce que je vais te... J'épargnerai aux éditeurs mon Psyal Odyssée qui fait partie de cet album où là c'est vraiment l'histoire d'un patient qui appelle un IA boîte vocale psy pour résoudre ses problèmes d'humanité, mais on n'y arrivera pas. Et puis finir par Sans Escale. Sans Escale, c'est le morceau qui a, on va dire, c'est le dernier morceau que j'ai mis sur cet album. Ça m'a été inspiré de l'histoire de Donald Crowhurst et de Moitessier pour la première course autour du monde en 79. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler. C'est encore une sacrée histoire d'homme. Il y en a un qui a fini fou et très certainement disparu en mer, c'est Donald Crowhurst. On a retrouvé son carnet de bord où il avait écrit jour 243, c'est fini, c'est la délivrance, c'est la fin du jeu. Il avait triché, menti, puis hypothéqué son entreprise et sa maison. Et puis en face, on a Moitessier qui, lui, alors qu'il est en tête de la course, décide de continuer plus à l'est.
Qui arrête la course, arrête la course pour partir à l'aventure.
Voilà, il fera quasiment deux fois le tour du monde. Il va rester, et en 10 ans, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque ni rien, donc il envoie grâce à son lance-pierre qui manie bien un message sur un paquebot, je crois. Et il a écrit dans ce message, je ne rentre pas, je continue plus à l'est sûrement pour sauver mon âme.
Eh bien, on va écouter, sans plus attendre, sans escale, de Mehdi Zaïba dans Résonance. Vous écoutez Univers 99.9.
La fin de mon jeu.